Cette année de suite, je me suis rendu en Islande, dans les hautes terres centrales, et en particulier dans une région qu'on appelle Fjallabak. Ça veut dire derrière les montagnes en islandais, ça porte très bien son nom. C'est un endroit extrêmement vallonné que j'aime non seulement pour la beauté absolument irréelle de ces paysages, mais aussi pour ce que j'y ai trouvé, c'est-à-dire le rétir, ce que les Islandais appellent le rétir, c'est-à-dire la grande transhumance automnale des troupeaux de moutons. J'ai suivi cette année durant les bergers, les éleveurs qui vont à cheval dans les montagnes chercher les moutons qu'ils ont laissés là-bas pour l'estive, et c'était à chaque fois un voyage extraordinaire.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Olivier raconte l'Islande. Avec lui, on a parlé de moutons, de crise financière et de traditions millénaires.
C'est Bourlinguer à travers le monde. Je m'appelle Olivier Joly, je suis journaliste de formation, photographe aussi. En parallèle, sur des sujets parfois divers, parfois communs, il m'arrive d'écrire et de photographier le même sujet. J'ai voyagé depuis que je fais ce métier, depuis mes 20 ans, dans différentes régions du monde, mais toujours sur le long terme. J'ai d'abord beaucoup travaillé sur Madagascar, puis sur la Patagonie, ce qui a commencé à me rapprocher des extrêmes du monde et à me mettre le pied dans les terres venteuses, les terres froides, pour lesquelles j'ai développé avec le temps un goût absolument immodéré. Et tout ça m'a amené en Islande. Alors mon premier voyage, c'était il y a très longtemps, c'était en 98, c'était pour les besoins d'un reportage et je n'en ai pas vu grand-chose. Mais je me souviens quand même du vent qui m'a accueilli à l'aéroport de Keflavik quand j'ai poussé les portes de l'aéroport et que je suis arrivé sur ce champ de lave, un peu au milieu de nulle part. C'est rare de voir un aéroport aussi paumé. Et dans une grande bourrasque glaciale qui m'a fait réaliser tout de suite que ce pays n'était pas sous nos latitudes. J'y suis retourné après, pour le plaisir, pour des vacances. En 2002, c'était l'hiver et c'était mon premier hiver là-bas. Et je ne réalisais pas qu'il était assez unique, parce que il était vraiment arctique. C'est-à-dire que j'ai vu 15 jours durant un paysage complètement blanc, où soufflait un vent qui faisait voler une fine pellicule de neige sous mes pas et sous les roues de mon 4x4. Et c'était une expérience assez étonnante. C'est pas si souvent, puisque l'Islande, même l'hiver, est parfois sans neige et plus pelée que blanche. Et puis, il y a eu le voyage de 2009. C'est, on va dire, celui qui a tout déclenché. Un voyage beaucoup plus long. Estival, qui m'a permis de voir les couleurs de l'Islande et pas seulement ses formes. Ça m'a permis aussi de la découvrir assez largement. Et en particulier, pendant quelques jours, j'ai commencé à mettre les pieds dans les hautes terres de l'intérieur, que les Islandais appellent The Highlands. C'est pas celle d'Écosse, c'est celle d'Islande. Elles sont assez différentes. Et j'ai tout de suite ouvert des grands yeux en me disant « Mais où est-ce que j'ai atterri là ?» Et j'ai eu un sentiment assez inexplicable de me sentir immédiatement chez moi. Ça m'a rappelé, quand j'étais beaucoup plus jeune, qu'on m'a mis un magazine de voyage entre les mains, je crois que c'était un Géo, et que j'ai vu des photos de vallées glaciaires, je crois que c'était dans le parc du Denali en Alaska, et j'ai eu un flash en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces endroits-là ? C'est chez moi !» Et ben, en arrivant en Islande, dans ces hautes terres, j'ai eu exactement le même sentiment, et depuis, ben, je n'ai plus quitté ce « chez moi ». C'était en 2009, et dès lors, chaque année, je me suis rendu dans différentes parties d'Islande, mais toujours en mettant un pied dans ces hautes terres qui m'inspirent et qui vraiment me font sentir dans un état que j'adore. En 2010, j'y ai passé vraiment pas mal de temps. J'ai découvert ce qui s'appelle Fjallabak, donc derrière les montagnes. C'est un espace qui est au sud des hautes terres. Donc il faut imaginer un territoire qui globalement, je parle des hautes terres en général, représente 40 à 50% de l'Islande, soit un dixième de la France. Sur ce territoire, il n'y a que de la nature. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de village, pas de ferme, il n'y a pas de bar, il n'y a pas d'hôtel. Il y a quelques refuges, pour certains très fréquentés, notamment ceux qui sont le long d'un trek qui s'appelle le Laugavegur, qui est probablement le plus beau trek d'Europe, qui est une randonnée sur 4 jours. Mais hormis ces 4 ou 5 grands refuges,
c'est plutôt des cabanes de bergers qui sont aménagées avec quelques couchettes et qui permettent de marcher, de voyager dans ces hautes terres sans en sortir pour aller trouver une couche. On était donc en 2010, c'était un jour, je me rappelle, extrêmement pluvieux, où je me suis même demandé s'il fallait y aller parce que c'était pas du tout engageant. Le ciel était bas, il pleuvait des cordes, et je rentrais dans un endroit qui semblait extrêmement inhospitalier. J'étais en voiture, j'étais en 4x4. C'est la condition sine qua non pour rentrer véhiculé dans ces terres, c'est d'avoir un 4x4. Et il a fallu peut-être 10 km pour que je me retrouve face à ma première rivière. Les traversées de rivière à gué, c'est un incontournable d'un voyage dans les hautes terres. Il vaut mieux là être en voiture qu'à pied. Ça se traverse à pied, mais pour certaines, elles sont vraiment hautes et avec beaucoup de courant. Quand on traverse sa première rivière, on a un petit peu peur, on a une boule au ventre en tout cas, ça a été mon cas. Et depuis cette date, j'en ai toujours gardé l'habitude, quand j'avais le moindre doute, de me mettre en caleçon et de traverser la rivière pour voir si par hasard elle ne serait pas un peu trop haute pour ma voiture et si je ne risquais pas de la laisser au milieu du gué. C'est jamais arrivé, je touche du bois et j'espère que ça n'arrivera jamais. En tout cas, voilà, cette première expérience dans Fiat Labac était assez impressionnante. Ça a duré quelques heures et c'était sur une piste dont je sais aujourd'hui que c'est une des plus difficiles. Elle a la particularité, cette piste, de se trouver le long d'un glacier et de traverser un désert complètement noir, un désert de sable et de cendres qui s'appelle le Maelifelsandur. Et ce désert est dominé par une montagne qui, elle, est complètement verte, parfois même verte fluo, notamment quand il pleut, parce que les mousses se gorgent d'eau. Et donc c'est une sorte de vigie, de phare, sur un désert complètement plat et noir. À l'horizon, il y a un glacier. De l'autre côté, il y a des montagnes qui, elles aussi, sont moussues et donc vertes, jaunes, selon le degré d'humidité de la mousse. Et on avance. Et à un moment, ce désert de sable noir s'est trouvé strié de petites rivières. En fait, l'eau de la pluie prenait les lits de minuscules rivières et donc j'avais l'impression de rouler sur l'eau. C'était très impressionnant. C'était après avoir traversé deux autres rivières, après avoir roulé sur un champ de pierre assez impressionnant et je me trouvais là sur une espèce d'océan terrestre qui était absolument extraordinaire. Et puis, ce jour-là, j'ai fait une petite pause, j'ai essayé de photographier cette montagne que j'adore, Maelifel. Je l'aime au point que j'ai donné son nom comme deuxième prénom à ma fille, suivant ça l'exemple des Islandais qui donnent toujours des noms d'éléments naturels à leurs enfants, souvent en guise de deuxième prénom. J'étais donc à Maelifel et puis tout d'un coup, j'ai vu débouler des chevaux, un troupeau de chevaux. Et c'était une vision vraiment assez incroyable parce que j'étais au milieu de nulle part et je ne m'imaginais pas croiser à cet endroit-là des chevaux, une trentaine de chevaux au galop et qui étaient suivis par des gens vêtus chaudement évidemment, d'imperméables pour certains, de vestes fluorescentes qui est la meilleure façon de ne pas se perdre dans ces espaces assez inhospitaliers, assez hostiles. Et cette vision m'a vraiment suivi. J'ai fait une photo assez réussie, les autres assez ratées parce que j'étais vraiment saisi par ce que je voyais. Et cette vision ne m'a pas quitté. Donc j'ai découvert Fiat Labac, j'y ai voyagé, je suis allé dans deux, trois autres endroits dont je parlerai peut-être plus tard. Mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces chevaux? Pourquoi ils étaient là au milieu du désert? Je me suis renseigné auprès d'un ami qui s'appelle Bertrand, qui vit depuis bientôt 30 ans en Islande, un Français. Et je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Et il m'a dit, ah, t'as sûrement croisé des fermiers pendant le Rietir. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que le Rietir? Il m'a dit, le Rietir, c'est la grande transhumance annuelle des moutons. Donc je lui ai demandé de m'en dire un peu plus. Le Rietir, c'est une tradition millénaire. Ça veut dire que les premiers colons qui sont arrivés au 9e siècle en Islande, qui étaient des Norvégiens, ont amené sur leur landskip, ce qu'on appelle nous les drakkars, ils ont amené sur leur bateau des chevaux et des moutons. Et ils se sont très vite aperçus que pour survivre dans sur cette terre totalement volcanique, assez hostile, eh ben, il était nécessaire de s'entraider, et notamment dans le dans l'entretien, dans l'élevage des troupeaux. Et donc, depuis environ le premier millénaire, donc depuis l'an 1000 environ, les fermiers partent ensemble, chaque automne, chercher les moutons qu'ils ont lâchés au début de l'été pour qu'ils aillent vivre leur vie dans les hautes terres où l'herbe est un peu plus grasse qu'en bas, où ils savent trouver leur chemin entre les champs de lave pour aller chercher des endroits un peu soit moussus, soit herbus. Et donc, à l'automne, selon un calendrier lunaire très ancien, ils partent ensemble à la recherche de leur troupeau. Donc ça, c'est leur yétir. Il y en a environ 150 chaque année dans toute l'Islande, c'est-à-dire que les fermiers qui sont installés plutôt sur la frange maritime de l'île, la plus vivable, eh ben lâchent dans les montagnes les moutons et ils y vont zone par zone récupérer toutes leurs bêtes. Et pour que ce soit faisable, ils y vont tous ensemble. Et donc chaque année, on voit à cette période de la fin septembre, des fermiers à cheval ou en 4x4, à pied dans les montagnes, qui partent chercher leurs troupeaux. Cette description m'a donné très envie de vivre leur yétir véritablement, c'est-à-dire en les suivant au plus près. Bertrand s'est renseigné pour moi et il m'a dit « il y en a un qui est vraiment intéressant, que tu devrais aller voir ». C'est le Rietir qui va dans la vallée de la Jökulgil. Je ne connaissais pas à l'époque, je n'étais pas un très bon connaisseur encore de l'Islande, et je lui ai dit c'est quoi. Il m'a expliqué que tout près du refuge de Landmannalaugar, qui est le point de départ de ce trek dont je te parlais, il y a une vallée qui est fermée toute l'année aux visiteurs, sauf en ce jour particulier. C'est-à-dire que pour aller au fond de la vallée de la Jökulgil, ce qui est environ 13-14 km, eh bien, on ne peut pas y aller en véhicule parce que c'est une réserve naturelle et qu'on est considéré comme étant hors-piste. Donc, toute l'année, c'est interdit. À pied, c'est très difficile parce qu'on fait plus que 14 km. Il faut monter, descendre. Il y a des rivières, énormément de rivières et de bras de rivières plutôt, parce que c'est de la Jökulgil qu'il s'agit. Il y a beaucoup de bras et de sinuosités de cette rivière à traverser. Et elle est souvent très haute, en particulier quand il a fait très chaud ou au contraire quand il a beaucoup plu. Donc soit le glacier a fondu, soit l'eau de pluie a fait monter le niveau de la rivière. Et donc c'est très difficile d'y accéder. Bertrand s'est renseigné pour moi et il m'a dit « tu devrais aller voir, je crois que les fermiers se retrouvent dans le refuge de Landmannaheitir chaque vendredi. » Et c'est là qu'ils partent pour le samedi dans la vallée de la Jökulgil. Donc j'y suis allé, complètement sans prévenir, à l'improviste. J'ai juste passé un petit coup de fil à un homme dont on m'a dit qu'il était le responsable, qui m'a confirmé que c'était bien là que ça se passait. Et il m'a dit « vendredi après-midi, tu trouveras du monde ». Les Islandais sont comme ça, parfois un peu bruts de décoffrage, surtout quand ils ne connaissent pas. J'ai donc suivi son conseil. J'ai pris une autre piste de Fjallabak, là encore quelques rivières à traverser. Là encore des paysages vraiment en bichromie, noir et vert ou noir et jaune, c'est selon les heures du jour, selon la pluviométrie. Et puis je suis arrivé à ce petit refuge. Et là, j'ai vu effectivement beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de chevaux. Il y avait des hommes, des femmes. Il n'y avait pas encore de moutons. Et donc je suis allé taper à la porte. J'ai été accueilli par une femme extrêmement charmante qui s'est présentée. Elle s'appelait Maya. Elle était allemande et elle vivait en Islande elle aussi depuis 30 ans par amour d'un Islandais. Elle m'a demandé ce que je voulais faire. Elle m'a invité à prendre un café très gentiment. Et elle m'a dit « pas de problème, tu vas venir avec nous ». On va aller jusqu'au refuge de Landmannalaugar, nous on dort là pour la nuit et je vais trouver quelqu'un qui va pouvoir t'emmener dans la vallée de la Jökulgil avec nous parce que ton véhicule là il est trop petit et il va se faire emporter par le courant. Donc j'ai attendu avec eux une heure ou deux, c'était vraiment le temps de la pause et ils se sont remis en marche. Alors il faut imaginer dans ces paysages qui sont vraiment des paysages d'heroic fantasy, il faut imaginer un convoi. Un convoi où il y a des chevaux. Beaucoup, une cinquantaine, une centaine de chevaux. Il y en a quelques-uns qui sont montés, les autres ne sont pas montés. Mais ils sont là parce que ce travail est tellement exténuant qu'il faut plusieurs montures par cavalier. Donc on les emmène avec eux durant tous ces 7 jours que constitue leur yétir. Je les ai suivis, j'ai eu la chance de faire mes premières vraiment très belles photos parce que je pouvais de temps en temps les doubler quand ils étaient un peu sur le côté, les attendre dans les beaux endroits, dans les beaux cadres. C'est un spectacle assez fascinant. Et je les ai attendus notamment dans un endroit qui est devenu au fil des années, on va dire, un rendez-vous rituel pour moi. Il faut imaginer un grand virage avec une route qui monte par la gauche, qui tourne juste devant moi et qui redescend par la droite. À l'horizon, il y a des sommets absolument magnifiques. À gauche, il y a un lac. À droite, il y a des cratères à perte de vue. Et tout ce convoi passe ici, les cavaliers et puis les quelques 4x4. Et un véhicule qui est particulièrement étonnant, c'est une ancienne ambulance qui date de 1953, qui est une espèce de jaune d'or, et que les fermiers ont transformé en fait en réfectoire ambulant. Donc il va nous suivre durant les 7 jours du Rietir. Et c'est là que chaque matin, chaque après-midi, les fermiers viendront se restaurer, prendre un petit beignet et un café chaud surtout, ou un thé, parce que a fortiori avec ce climat, monter des heures durant comme ils le font dans les montagnes, c'est quelque chose de vraiment fatigant. Il suffit pour ça de regarder les visages rougis par le froid, la fatigue sur les visages pour se rendre compte à quel point c'est quelque chose de très fatigant. On est donc arrivé après quelques heures de cavalcade pour eux, de route pour moi, au refuge de l'Andana Le Gard. C'est là que se faisait le grand rassemblement de tout le monde avant le départ du lendemain matin. Et là, on m'a présenté deux personnes qui avaient un très gros 4x4 et donc de la place pour moi. On s'est présenté brièvement. Il s'appelait Palmi pour lui, Sigrun pour elle. Et ils m'ont dit « rendez-vous demain ». On s'est salué. La nuit tombait, je suis parti dormir un peu plus loin parce qu'ils avaient réservé l'intégralité du refuge pour eux. C'est un refuge d'une soixantaine de places. Et ils m'ont dit « rendez-vous demain vers 8h ». À 8h30, on se met en route. J'y suis retourné le lendemain matin. Ça s'affairait autour du refuge. Ça sentait bon le café, on m'en a encore offert un. C'était le balai des chiens. Les chiens étaient très contents. Ils sentaient qu'ils partaient pour une journée. Ils adorent ça. Les chiens de berger, c'est leur rôle. Ils ne vivent que de ça. Et quand on ne peut pas les emmener dans les montagnes courir derrière les moutons, il faut les sortir. Ils ont une énergie folle. C'est tous des border collies. Un chien que tu connais sûrement, noir et blanc, à poils plus ou moins longs, qui sont des chiens extrêmement intelligents et dont vraiment l'instinct consiste à rassembler les moutons. On s'est donc rassemblés tous. Je suis monté avec Palmi et Sigrun. Je fais une parenthèse, je ne les connaissais pas, il a fallu quelques heures pour que je sympathise avec eux. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, c'est mes meilleurs amis ou presque. Si on considère qu'un ami c'est quelqu'un qu'on a plaisir à retrouver et sur qui on peut compter, c'est probablement mes meilleurs amis. Ils sont l'un et l'autre photographes, d'excellents photographes, des paysagistes en particulier. Et ils ont la particularité d'avoir ce gros 4x4 qu'ils ont aménagé et dans lequel ils peuvent dormir très confortablement, ils peuvent manger, ça fait vraiment salle à manger, couchette, et ils y dorment une soixantaine de nuits par an, pour te dire à quel point ils aiment rouler, sillonner leur pays, s'arrêter dans les beaux endroits, se poser, et au petit matin ou au crépuscule, sortir leur appareil photo pour faire des paysages magnifiques. On est donc parti. On a commencé par traverser une ou deux petits bras de rivière, et puis on est entré dans la vallée de la Jökulgil. Alors cet endroit, il est absolument magique, peut-être aussi parce qu'il est ouvert seulement un jour par an, il est extrêmement préservé. En réalité, c'est un canyon, c'est assez étroit, ça fait parfois 100 mètres, parfois 200 mètres de large. C'est entouré de montagnes des deux côtés, assez hautes, qui sont de couleurs assez extraordinaires, parfois ocre rouge, parfois ocre jaune, parfois bleu, verte, grise. Il y a toutes les couleurs imaginables parce que ce sont des collines de rhyolite. C'est une roche volcanique qui a la particularité de laisser voir les minéraux, la couleur des minéraux qu'elle contient. On est donc dans un paysage complètement fantasmagorique. Autant te dire qu'en tant que photographe, j'étais fou dans cet endroit-là. Notamment, j'ai souvenir d'une image où on voit un cavalier qui est minuscule sur un fond de falaise, comme ça, ocre, avec une bande verte en diagonale. C'est une image que j'aime vraiment beaucoup. C'est un endroit extrêmement spectaculaire. J'ai compris très vite pourquoi on m'avait dit qu'il fallait que je monte avec eux. Effectivement, la rivière était très haute, très caillouteuse. Il faut imaginer que la voiture, elle pique du nez quand elle rentre dans la rivière. Elle n'est pas large du tout, hein. C'est souvent un bras de rivière qui fait 3-4 mètres, mais justement parce que c'est très étroit, c'est très profond. Si ça faisait 7-8 mètres, l'eau serait plus étale et donc serait plus facile à traverser. Donc c'est voilà, tout le monde commence à traverser. Alors une ou deux fois, il y avait des voitures qui avaient tendance à rester dans la rivière, mais il y avait là un camion de pompiers qui était venu du village voisin à 3 heures de route d'ici et qui en fait suit toute cette journée dans cet endroit particulier parce qu'ils savent qu'il y a très souvent des voitures qui sont incapables de sortir de la rivière. Voilà, on a avancé comme ça, on a mis à peu près 2 heures pour arriver au bout de cette vallée, le temps d'arrêter le réfectoire, de se prendre un café, et puis j'ai commencé à les voir, je découvrais, donc c'est pas cette année-là que j'ai pu comprendre tout de suite comment ça marchait. En fait, très vite, sans prévenir, ils partent dans les montagnes. Alors, il y a un homme qui dirige tout ça pour que ce soit organisé, pour que ce soit efficace, parce que c'est une tâche extrêmement difficile. Tu imagines un paysage gigantesque avec des recoins, des petites vallées cachées, des vallons profonds, des endroits très inhospitaliers, très lointains, des très rocheux. Et il faut aller chercher là des moutons, ils sont des centaines, et les moutons, ils n'ont aucune envie, ils ne comprennent pas qu'il faut les ramener. Ils ne comprennent pas que s'ils passent une semaine ou 15 jours ou un mois de plus, eh ben, ils vont rester dans la neige et ils ne vont pas s'en sortir. Et donc, les moutons n'ont qu'une envie, c'est de cavaler et de se barrer dès qu'ils voient arriver les cavaliers ou les types qui sont montés à pied avec leurs bâtons, avec leurs chiens pour leur courir après. Et donc, on voit au loin, sur les crêtes, je vais te montrer quelques photos, là, on voit des hommes minuscules dans un paysage gigantesque qui vont chercher des moutons. Cette année-là, c'était une année très pluvieuse. La deuxième année, c'était une année très ensoleillée. Et la troisième, c'était une année très neigeuse. Et là, la difficulté est multipliée par 10, parce que trouver un mouton sur un paysage complètement enneigé, c'est quasi impossible. Donc c'est pour te dire que chaque année, c'est très différent. Ils vivent les choses comme elles sont. Ça fait partie de la mentalité islandaise. On a toujours vécu dans ce pays où le climat, la géographie, la géologie dictaient sa loi, et on s'y est fait. Il y a un dicton islandais que j'aime énormément, qui résume complètement la mentalité de ce pays, c'est « setaredast ». Ça veut dire « tout va s'arranger, tout va finir par s'arranger ». Ça veut dire « quel que soit ce qui te tombe dessus à un moment donné, sois confiant, on va s'en sortir ». Voilà, et cette mentalité, ça imprègne complètement le caractère des Islandais. Donc voilà, cette année-là, il pleuvait très fort, mais ils sont partis là-haut et ils sont partis chercher leurs bêtes. C'est à la fois passionnant et en même temps très rigolo, parce que voilà, des fois, il y a 10 personnes qui encerclent un mouton, et entre deux d'entre elles, eh ben, il voit un petit passage, il part et il est reparti 200 mètres plus loin, et tout le monde repart chercher le mouton, sachant que les fermiers, leur but, c'est de ne laisser aucune bête au fond de la vallée ou sur un sommet d'où ils ne pourraient pas sortir l'hiver. Pour ce rietir-là, il y a environ 5000 à 6000 bêtes à aller chercher selon les années, donc c'est pour te dire que c'est un sacré boulot. Pour que ce rassemblement soit le plus efficace possible, pour que les fermiers ne perdent pas trop de temps, qu'ils aillent à l'essentiel, toutes les manœuvres sont dirigées par un homme, dont je te parlais tout à l'heure, qu'ils appellent le roi de la montagne, Fjallkongur en islandais. Ça fait un peu rigolo, c'est presque grotesque comme nom, mais en fait ça cache un respect immense pour un homme qui connaît à la fois parfaitement la région, qui connaît évidemment les bêtes, les troupeaux, la façon dont ils peuvent réagir, mais aussi les gens avec qui ils travaillent. Donc c'est lui qui donne toutes les directives, il ne hausse jamais le ton, tout le monde est à l'écoute. Dans cette région-là, il s'appelle Christine, c'est un prénom masculin. C'est un homme qui, cette année, va vivre sa 40e année comme roi de la montagne et qui vit son 56e rietir. Il a 70 ans et le rietir, on a le droit de le commencer à l'âge de 14 ans. Donc lui, il a commencé au plus jeune âge et depuis, il n'en a pas raté un seul. Ça paraît fou. Il a assisté à tous les rietirs. Il est le plus âgé avec le conducteur de cette vieille ambulance qui s'appelle Holger et qui, lui, je crois, a un rietir de plus. Ça fait une expérience assez extraordinaire pour ces gens-là. Et Christine me racontait qu'il faisait le rietir dans ses premières années alors qu'il n'y avait pas de refuge. Donc, ils emmenaient tout ce qui était les tentes sur les chevaux en plus et ils campaient au milieu de ces vallées ou au fond de ces vallées. Donc, c'était vraiment une expérience extrêmement intense. Ce jour-là, on a réussi à rattraper, je crois, à peu près tous les moutons qu'ils espéraient. Quand ils en laissent, parfois, ils font un deuxième passage, en fait, en groupe réduit, et parfois même un troisième passage en survolant la zone avec un petit avion. C'est ce qu'on m'a raconté, ça, j'y ai pas assisté, mais c'est assez amusant. Mais vraiment, leur but, c'est de n'en laisser aucun. On a donc passé la journée comme ça. Ils ont mis les bêtes qu'ils avaient trouvées sur des bétaillères, et puis on a retraversé la vallée dans l'autre sens, on a refranchi les rivières, et on s'est retrouvé le soir au refuge d'un lendemain à l'Eugar. Alors il faut savoir que pour eux, c'est vraiment un moment extrêmement important, non seulement d'y aller ensemble, mais aussi le soir de communier, de faire la fête, de boire un coup d'alcool ensemble, de manger des plats traditionnels. À lendemain à l'Eugar, ils vont se baigner dans les sources chaudes qui sont juste à côté du refuge, ensemble. Le rietir, c'est un moment de grande convivialité. Ils ont vraiment le sentiment de faire vivre une tradition très ancienne et qui est essentielle à la survie à la fois de leur métier, des éleveurs, mais du pays en général. C'est un pays qui n'aurait pas pu s'en sortir sans cette solidarité entre les gens. Il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est que l'Islande a connu une grosse crise financière en 2008 qui a laissé les gens vraiment exsangues. Pour certains, ils ont perdu 90% de ce qu'ils possédaient. Ceux qui s'en sont le mieux sortis ont perdu 50% de leur compte en banque. Donc ça a été un vrai gros choc pour tout le monde. Et ça suivait quelques années où les Islandais ont vécu à crédit. C'était une espèce de bulle spéculative, donc chacun s'achetait un énorme 4x4 à crédit. La grande mode, c'était d'aller faire la fête à Glasgow le vendredi soir entre copains parce que c'était branché. Et donc voilà, un jour cette bulle a explosé, l'Islande s'est retrouvée littéralement sur la paille. Ils ont été mis sur la liste des États terroristes par les Anglais parce qu'ils refusaient de rembourser leurs dettes. Et de ce jour-là, il y a eu une espèce de prise de conscience. Après cette crise, jamais les volontaires n'avaient été aussi nombreux à venir rejoindre leur yétir. Leur yétir, il y a trois catégories de personnes en fait. Il y a les fermiers eux-mêmes qui vont naturellement chercher leurs bêtes. Il y a des bergers professionnels, ce sont souvent des gens qui ont un métier à côté et qui connaissent parfaitement leur yétir, qui sont évidemment d'excellents cavaliers, qui savent faire ce travail. Eux, ils sont payés très symboliquement. L'un d'entre eux me disait qu'il est payé pour 7 jours de travail, à peu près l'équivalent de quoi se payer une nouvelle paire de chaussures chaque année, parce que les semelles en prennent un sacré coup sur cette terre volcanique 7 jours durant. Et donc après cette crise financière, les volontaires ont été très nombreux à dire « on veut venir au Rietir ». En fait, ils ont eu l'impression, en rejoignant ce convoi, cette vieille tradition de gens qui se donnent la main pour faire vivre la ferme, l'économie rurale, ils ont eu l'impression de retrouver finalement les racines véritables de leur pays. Donc j'en ai vu beaucoup qui avaient oublié les sensations de passer une journée au grand air, d'escalader les montagnes, d'être au milieu des chevaux, d'être au milieu des chiens, et de se donner la main, de vivre vraiment des journées. C'est absolument épuisant. Il faut voir leur visage à la fin de la journée. Tu sens la fatigue sur tous leurs traits. J'ai fait des portraits très émouvants des gens qui vivent cette journée. Et en même temps, on voit sur leurs traits le sentiment du devoir accompli, le sentiment d'avoir vécu de belles choses. Et l'un d'entre eux me disait, pour moi, c'est vraiment la semaine la plus importante de l'année devant celle de Noël, encore plus que celle de Noël, alors que les fêtes chez les Islandais, c'est quelque chose de très important aussi. Après cette expérience, j'ai eu envie de revenir, il m'a semblé comme une évidence que j'allais revenir chaque année. C'était donc en 2012 et je suis revenu en 2013, 2014, voilà, je ne veux pas t'énumérer toutes ces années. J'ai reconnu les visages, c'était toujours les mêmes. Ils ont fini par me connaître, s'habituer à moi, donc j'ai pu faire des photos un peu plus intimes sans trop les déranger. J'ai proposé le sujet à Géo Magazine, à qui j'ai raconté cette histoire et qui a eu la gentillesse d'acheter le sujet. Donc voilà. J'ai raconté un peu ce Rietir qui, pour moi, raconte beaucoup de l'Islande. Ça raconte à la fois une forme d'authenticité, ça raconte un lien ancestral entre l'homme et la nature qu'on a un peu oublié chez nous. Ça raconte une terre qui est vraiment assez unique en son genre. C'est vraiment un endroit où, à travers le temps, on a appris que la nature était maîtresse en tout. C'est-à-dire qu'un fermier pouvait voir du jour au lendemain sa ferme être emportée soit par une éruption, c'est pas le plus fréquent, soit par une avalanche, c'est déjà plus fréquent, soit par une coulée de boue. Ça, c'est vraiment le grand classique. Ça arrive encore, c'est arrivé encore l'année dernière dans les fjords de l'Est. Voilà. La nature décide, les Islandais s'y soumettent et vivent vraiment en symbiose et au corps à corps avec elle, parce que parfois, c'est un vrai combat que de survivre. Il faut savoir qu'au 19e siècle encore, les Danois, qui étaient à l'époque la puissance coloniale qui dirigeait l'Islande, se sont demandé s'ils n'allaient pas rapatrier les quelques dizaines de milliers d'Islandais qui vivaient sur ce petit caillou où il n'y avait que des calamités. Donc il y a eu une vraie discussion autour de ça. Finalement, les Islandais sont restés, ils y ont survécu, sont devenus indépendants. Ils étaient il y a un siècle le pays le plus pauvre d'Europe de très loin. Et ils sont aujourd'hui, après avoir traversé cette crise économique, après avoir connu un boom touristique, sans doute un peu excessif, mais ça c'est un autre débat, ils sont devenus probablement le pays avec le niveau de vie d'Europe le plus élevé, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais c'est devenu un pays très dynamique, très entreprenant, très vivant, et qui aujourd'hui s'en sort parfaitement dans le grand concert mondial de la mondialisation, tout en gardant une identité très forte. Et le Rietir fait partie de cette identité. Voilà pourquoi j'ai eu tant de plaisir à le vivre, à le revivre. Alors, chaque année, c'était différent, c'était climatiquement différent. Des fois, il leur manquait beaucoup de bêtes. Des fois, ils étaient très satisfaits. J'ai retrouvé toujours cette solidarité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne cesse pas. Ces regards entre eux, cette entraide, ces mains qui se tendent, ces gens qui courent à perdre haleine derrière un mouton parce qu'il va se mettre dans un vallon lointain alors que ce mouton, il n'est pas à eux. Mais ils y vont, voilà, on vit pour la communauté. Ça, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié chez nous, je trouve, sauf peut-être justement dans le monde rural, cette fraternité. Et ça, c'était vraiment un beau moment. Il y a un jour très particulier dans leur Yétir. Ce que je te raconte là, ça se passe pendant 6 jours de suite. Pas toujours dans des lieux aussi difficiles d'accès. Il n'y a pas toujours des rivières à traverser une vingtaine de fois pour atteindre le fond de la vallée. Mais il y a toujours des montagnes et des moutons qui sont assez facétieux et qui vont se cacher le plus loin possible. Des chiens qui sont surexcités. Ça, c'est l'ambiance générale. Et il y a un jour particulier, c'est le jour du tri des moutons. On a ramassé au fur et à mesure de ces jours environ 5000 moutons, enfin plusieurs milliers de moutons, et on les emmène dans un endroit où il y a un corral, c'est-à-dire un grand enclos rond en bois. Il y a un petit rond au milieu, un grand rond autour, et que des petites portions un peu de fromage au milieu. Et donc, on lâche les moutons de la bétaillère vers ce petit anneau central. Chaque portion de fromage a un accès, et donc les fermiers mettent leur véhicule à un bout, là où il y a les moutons, et ils cherchent parmi cette masse de laine bêlante, les bêtes qui sont à eux. Et alors là, surtout, on voit les gamins qui n'ont pas le droit encore d'assister au Yétir, mais qui ne manqueraient pour rien au monde ce moment-là. Donc les petits gamins, les petites gamines, je ne l'ai pas dit, mais il y a une parité totale dans leur Yétir. Il y a autant de femmes que d'hommes et elles font exactement les mêmes tâches. Ben, les enfants, les petits-enfants vont chercher les bêtes. Alors c'est rigolo, des fois ils traînent des moutons qui font deux fois leur poids, mais ils se mettent à 3 ou 4 et hop, ils le ramènent dans la voiture de papa parce qu'ils savent que c'est à eux. Souvent, ils connaissent même, pour les petits fermiers eux-mêmes, ils connaissent même les noms des moutons. Ils donnent des noms à leurs bêtes. Moi, je connais un fermier qui a plusieurs centaines de bêtes et qui m'a assuré qu'il les reconnaissait et que chacune d'entre elles avait un nom. Donc voilà, on est à la fin septembre, ils ont tous récupéré leurs bêtes. Ils vont ensuite décider lesquelles seront tondues, serviront à la confection des pulls islandais qu'on voit sur beaucoup de photos, lesquelles seront envoyées à l'abattoir. Ça, c'est malheureusement le destin des moutons. En général, c'est là que je quitte les fermiers. Je pars en général trekker quelques jours, soit en autonomie, soit avec ma voiture. Je mets mon sac photo, c'est plus pratique. Et puis, je vais explorer les recoins de Fiatlabach et des Hautes-Terres. Alors aujourd'hui, je pense que je les connais extrêmement bien. J'ai des endroits que j'aime particulièrement, de manière étonnante, n'ont droit qu'à 5 lignes dans les meilleurs guides, des endroits ignorés des touristes. Et ça, c'est une vraie chance. J'espère qu'ils vont le rester encore assez longtemps. Il faut savoir que si Fiatlabach, c'est une réserve naturelle, donc a la chance d'être préservée. On n'a pas le droit de faire de hors-piste, on doit respecter des règles assez strictes. Ce n'est pas le cas d'une grande partie des Hautes-Terres. Aujourd'hui, c'est un grand dilemme de la société islandaise. Est-ce qu'on doit les préserver pour le développement écotouristique des années futures? Ou est-ce qu'on doit profiter de ces grandes et très puissantes rivières pour faire des barrages hydroélectriques et alimenter les usines d'aluminium qui sont en aval, en général au bord de la mer, et qui ont un énorme besoin d'électricité. Donc évidemment, les compagnies d'aluminium demandent des barrages. L'Islande est divisée sur le sujet. Il y a un grand projet de parc national des Highlands qui couvrirait la moitié du pays, qui n'a pas encore été voté, mais qui est toujours à l'étude. Alors c'est pour l'instant plutôt une belle note d'intention. Il est, semble-t-il, assez mal ficelé, selon une amie à moi, qui est avocate de l'environnement, donc qui, elle, serait évidemment en faveur de cette protection en parc national, mais qui me reconnaît qu'aujourd'hui, le projet n'est pas encore finalisé. Il faut voir, parce qu'il y a des fermiers qui ont leurs terres qui vont jusqu'aux Highlands. Qu'est-ce qu'ils feraient eux-mêmes de leurs terres? Est-ce qu'ils auraient le droit d'y accéder? Est-ce qu'ils auraient le droit d'en faire ce qu'ils veulent? Il y a un peu le combat entre la propriété privée et la propriété publique. Donc voilà, ça c'est le grand débat islandais des dernières années. Il faut savoir qu'il y a une grande figure qui a œuvré pour la défense de l'environnement depuis très longtemps, c'est Björk, la chanteuse, qui est vraiment la passionnariat de la nature islandaise et qui mène un combat acharné en faveur de la défense de ces espaces qui sont vraiment aujourd'hui les plus sauvages d'Europe. Il n'y a pas en Europe, peut-être à part en Russie, d'espaces sauvages sur une telle dimension. Un dixième de la France d'espaces complètement naturels, sans route, sans rien, il faut sans doute le préserver. Et j'espère que c'est ce que vont décider les Islandais, même si c'est une décision qui n'est pas très facile à prendre pour eux aujourd'hui.
Merci beaucoup pour ton récit. Pourquoi t'as voulu raconter ce voyage en particulier?
Parce que un voyage réussi, c'est pour moi, et là je parle de moi photographe essentiellement, et journaliste, c'est des choses à voir, des choses à raconter, des paysages et des visages. Donc dans le Yétir, il y a tout ce que j'aime, le lien de l'homme à la nature, des histoires. Je suis vraiment fan des histoires, des gens avec une épaisseur humaine très forte. Le tout dans des paysages, vous avez pas les images, mais que j'ai essayé de décrire, qui sont des paysages absolument extraordinaires. Donc voilà pourquoi l'Orietir est pour moi une expérience très particulière et une sorte d'accomplissement en tant que photographe.
Tu introduisais ton récit en disant que tu avais au final pas mal voyagé, que ce soit pour le tourisme ou de manière plus professionnelle. À quel point tu prépares tes voyages et quelle place tu laisses à l'improvisation une fois que tu es justement sur place ?
Je dois dire que j'ai tendance à beaucoup préparer les voyages, notamment parce que ça me permet de me mettre dedans à l'avance. Et pour moi, la préparation du voyage, c'est aussi une partie du bonheur du voyage. Donc je prépare pas mal. En revanche, sur place, j'essaie de laisser place à l'improvisation autant que possible. Par exemple, si j'ai un temps vraiment inshootable parce qu'il pleut beaucoup trop, bon, bah, je fais 50 km si c'est nécessaire pour essayer de trouver une belle lumière. Ou voilà, je pense qu'il faut s'adapter aux circonstances, il faut être ouvert. Et voilà. Mais pour moi, le voyage, c'est comme une école de l'ouverture et j'essaye de rester ouvert.
Et c'est l'imprévu qui t'a fait découvrir l'Orietir de toute façon.
Absolument, c'est complètement l'imprévu, j'étais pas parti là-dessus et ça m'a ouvert sur énormément de choses. Et voilà, ça c'est l'exemple type, c'était un voyage que je devais faire avec un ami et il n'est pas venu. Et voilà, je me suis retrouvé seul à faire ça, à rencontrer l'année d'après Palmier Sigrun. Et pour moi, c'est l'exemple même qu'il faut parfois suivre sa bonne étoile.
Mis à part ton matériel photo, qu'est-ce que tu vas toujours prendre avec toi dans ton sac quand tu voyages ?
Un carnet de notes orange que tu vois là avec Corto Maltese dessus, parce que il m'accompagne et j'aime bien. C'est un rappel de la poésie qu'on peut mettre dans un voyage. Et toujours un livre ou deux en général. Si possible de la littérature islandaise quand je vais en Islande, mais pas toujours.
Mis à part les photos, tu vas raconter et documenter tes voyages via de la prise de notes. Mais quel est ton rapport à la photo en voyage ?
J'essaie de pas en être l'esclave. Mais en réalité, oui, ça me prend beaucoup. Des fois, c'est sûr que je pourrais mieux profiter de l'instant, mais j'essaye de le faire maintenant. J'essaye de le faire et notamment de m'accorder des petites pauses qui peuvent être d'une minute ou d'un quart d'heure. Quand je suis devant un paysage inspirant, je me pose, je respire par le ventre et parfois j'arrive à quelque chose qui ressemble à une expérience mystique presque. À mon échelle, hein, c'est du petit mysticisme, mais c'est quelque chose qui fait un bien fou.
J'ai eu l'occasion de voir quelques-unes de tes photos récentes de l'Islande parce que j'ai été gentiment invité au vernissage de ton exposition. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et du livre du coup qui est tiré de ces photos-là ?
Voilà, cette exposition, elle a accompagné le lancement de mon nouveau livre qui s'appelle Saga. Alors c'est un livre en noir et blanc sur l'Islande dans lequel on voit beaucoup de photos d'Urietir, beaucoup de photos de Fjallabak, cette région que j'aime énormément. Ça s'appelle Saga parce que c'est le nom des textes médiévaux qui ont fait la réputation de l'Islande, parce que ça raconte le lien immémorial entre une terre et un peuple, ce que j'appelais le corps à corps tout à l'heure, entre les hommes et les femmes et ce pays étonnant où on est soumis aux aléas climatiques, aux aléas telluriques et où il faut vivre avec ça.
Une fois que tu es de retour au pays, comment tu gères ce retour et est-ce que tu es atteint du blues du voyageur ? Si c'est le cas, comment tu te soignes ?
Le blues du voyageur, il commence dès que je mets le pied à l'aéroport et que je sens l'atmosphère parisienne. Sentir, je veux dire, vraiment. Ouais, l'Islande, il y a un vrai blues que j'ai appris à essayer d'estomper avec le temps. Quand je me plonge dans mes photos, en général, ça y contribue. J'écoute beaucoup de musique islandaise aussi. Ça me permet de me sentir un peu là-bas. Et puis, je fais coucou aux amis. Et puis, surtout, j'imagine assez rapidement le voyage futur. J'en dessine les contours, pas forcément la date précise, mais qu'est-ce que je pourrais y faire et quand ça pourrait être. Et s'ouvrir une fenêtre comme ça sur un horizon de voyage, pour moi, c'est très important.
Comment tu considères les rencontres en voyage ? Est-ce que c'est plutôt des relations à usage unique ou des relations qui durent ? Et est-ce qu'au cours de tes voyages, il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué ?
Que j'ai remarqué en tout cas, c'est que les voyages les plus forts, il y a toujours eu des rencontres humaines. Voilà. C'est, par exemple, je suis allé en Antarctique, j'ai adoré l'Antarctique, mais il n'y a pas de rencontre humaine là-bas, si ce n'est des passagers du bateau sur lequel je me trouvais. Les rencontres avec les autres voyageurs, je les recherche pas forcément. Il y en a des très sympas, mais je les recherche pas. En revanche, dès que je sens qu'il y a l'ombre d'une possibilité de rencontrer quelqu'un, sur mes précédents voyages, ça m'est arrivé assez souvent, à Madagascar en particulier, qui est vraiment une terre propice à ça, ou en Patagonie. En Patagonie, je frappais à la porte de n'importe quelle estancia et j'avais toujours le gardien qui m'ouvrait et qui, avant toute chose, me tendait la calebasse de maté. Et voilà, après 5 minutes de silence à siroter le maté avec lui, on commençait à discuter. Donc ça, pour moi, c'est l'essence même du voyage.
Pour se parler du futur maintenant, bon, j'ai cru comprendre que chaque année maintenant, tu retournais en Islande. Mis à part ça, quels sont tes futurs projets ?
Mes futurs projets, c'est d'essayer de passer le maximum de temps possible en Islande, tout en faisant en sorte que ce soit compatible avec ma vie de famille. Mais l'idée, c'est d'y voyager le plus possible, donc en reportage, si possible, en voyage personnel pour continuer mon travail, parce que voilà, c'est pas parce que j'ai sorti Saga que mon travail photo s'arrête en Islande. Je pense qu'il est parti pour durer vraiment très longtemps. Et puis, je garde quand même les fenêtres ouvertes sur d'autres destinations. J'ai un goût vraiment très marqué pour ces terres du Nord. Ou ces îles du Nord, parce que par exemple là il y a quelque chose qui me titille vraiment, c'est les Féroé. Avant que ça ne devienne trop populaire et que le bouche à oreille Instagram en fasse une destination ultra prisée, j'ai envie d'aller y jeter un œil.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Tu as un petit espace qui t'est réservé, dans lequel tu peux partager une dernière anecdote, une recommandation, un proverbe, une citation. C'est à toi.
J'incite tous tes auditeurs à écouter la musique islandaise. Il y a des groupes absolument fantastiques. Je vais citer Sigur Rós, que tout le monde connaît, Asgeir, que tout le monde connaît, mais il y en a d'autres. Il y a Sinfang, il y a Soleil, il y a vraiment beaucoup. Il y a Ólafur Arnalds avec Arnór Dan, qui est un chanteur assez exceptionnel. C'était le générique de Broadchurch, la série. C'est magnifique. J'incite les gens à se pencher sur la littérature islandaise et au-delà des polars qui sont très connus, il y a un grand, grand nom de celui qui sera, à mon avis, le prochain prix Nobel de littérature islandais, qui est Jón Kalman Stefánsson. Et puis, si tu veux, je voudrais bien laisser tes auditeurs sur une citation que j'aime beaucoup. Elle n'est pas d'un auteur islandais, mais d'un Américain, qui s'appelle Edward Abbey, qui a été très longtemps ranger dans les parcs nationaux, notamment dans les déserts du Sud-Ouest, et qui écrit ces quelques mots qui, pour moi, résonnent tout à fait aussi en Islande, puisque un désert est un désert. Je ne suis pas ici seulement pour échapper un temps au tumulte, à la crasse et au chaos de la machine culturelle, mais aussi pour me confronter de manière aussi immédiate et directe que possible au noyau nu de l'existence, à l'élémentaire et au fondamental, au socle de pierre qui nous soutient.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et voilà, c'était Bourlingué, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi écouter Bourlingué sur la web radio Voyage, Allô la planète. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlingué.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui !